Paul VI lui-même avait désigné de son vivant encore Mère Teresa comme un exemple. Il avait cité Mère Teresa comme étant un signe prophétique dans ce monde et vraiment un exemple extraordinaire à suivre pour redire l'amour de Dieu au cœur de ce monde. Donc, appuyé par Paul VI, on ose reprendre, d'autant plus que son procès de béatification a été ouvert et que ce procès avance bien. Il y a vraiment plusieurs choses qui nous permettent d'avancer un petit peu avec Mère Teresa. C'est une histoire, hein, Mère Teresa. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà rencontrée, mais je me souviens la première fois que j'étais à Calcutta, que j'ai vu ce petit bout de dame comme ça, elle n'est pas très grande, hein, toute ridée comme ça, mais avec ce sourire qui rayonnait, qui prenait tout le visage. On avait compris qu'il y avait un mystère derrière ça, qu'il y avait une telle disproportion entre l'œuvre accomplie, la charité répandue et ce petit bout d'âme, c'était extraordinaire. J'ai un ami qui était dans la drogue, il faisait du bouddhisme zen à l'époque. Et puis il est allé un matin à la messe, les sœurs ont la messe à 6h10 à la maison mère. Et puis il arrive, à un moment donné, une sœur lui tend un livre de chant pour la messe. Et au moment où la sœur le regarde et prend le livre de chant, paf, il fond en larmes. Ouh, il dit, là je suis pas assez zen, j'ai pas assez médité ce matin, il faut que je me reconcentre. Le matin, il dit, je prendrai 2 heures de méditation, ça ne se passera plus, moi je suis pas d'accord ces choses-là. Il arrive, le lendemain matin, la même bonne femme, paf, lui tend le cahier, et là, en larmes, mince, 4 heures de méditation. Le matin, il arrive, cette fois-ci, on ne m'aura plus, je ne vais plus, je vais maîtriser, zen. La sœur lui tend le truc et il fend en larmes. Et puis elle le regarde dans les yeux et elle lui dit, ce que tu cherches très très loin, très très loin, c'est au-dedans de toi que tu vas le trouver. C'était son départ. Il me disait, tu as le plus long voyage que j'ai fait dans ma vie, c'est le voyage de ma tête jusqu'au cœur. Grâce à elle, elle m'a montré que c'était le plus long voyage qu'il fallait faire. Pendant 5 ans, elle avait tourné autour du monde. Il venait de faire ce voyage de la tête au cœur. On ne peut pas sortir indifférent de la rencontre. En même temps, c'est une femme de tempérament. Je me souviens un jour, on parlait ensemble devant la maison mère. C'était quelques volontaires. Mère Teresa était avec nous. Puis d'un coup, elle se met à crier. Never do that! Ne fais jamais ça! Oh là, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, et puis elle court. Et elle se dirigeait vers un volontaire qui donnait de l'argent à un petit enfant qui était là, qui mendiait. Et puis, j'étais surpris. Elle dit, il ne faut jamais faire ça, tu vois, parce que tu le maintiens dans sa mendicité, tu l'empêches de sortir, tu lui donnes une image aussi de l'Europe qui n'est pas juste, il ne faut pas faire ça. Mais elle a crié, elle a couru. Il y a un enfant qui passe sous le train, ce n'était pas ça. C'est un enfant qui allait passer à côté de son humanité, et donc elle réagissait fortement. Excusez-moi la prononciation, je parle très mal l'albanais. Gongsa Bojaksiu, c'est la dernière fois que je dirai, c'est le nom de cette jeune fille qui veut dire Agnès, et qui est née le 26 août 1910 à Skopje. C'est une ville de Macédoine. Son père était donc albanais, sa mère albanaise, avait émigré dans cette partie qui, à l'époque, était très troublée, puisque c'était les Balkans. Et les Balkans n'ont jamais été un lieu très paisible. Ce n'est pas depuis les guerres de 80 et 90 que les choses se sont déclenchées, ça fait très longtemps. À l'époque, c'était encore occupé par l'Empire ottoman, qui est en train de se dissoudre. Il y avait des velléités d'indépendance qui étaient là, donc une région pas très facile. Elle était la troisième. Elle avait avant elle une sœur et un frère, de 5 ans l'aîné et de 2 ans pour le frère. On disait qu'elle était assez grassouillette, joyeuse, malicieuse, un peu garçon manqué dans sa petite enfance. Voilà, une famille très croyante, pratiquante. Son père avait une entreprise de maçonnerie, de construction. Donc il y avait une certaine aisance familiale. Ce n'était pas une famille extrêmement riche, mais une aisance quand même qui était là. Et il avait plusieurs maisons qu'il louait, donc c'était assez facile, la vie. Mais une vie de prière, le père quand même assez strict comme ça, qui savait mettre les choses en place. Le frère Lazare, le frère de Mère Teresa, a beaucoup plus souffert de l'autorité paternelle que Mère Teresa. Pour elle, ça lui allait comme un gant, mais elle est scariste pour la suite aussi. Hein, donc, à la suite qui tirait pour gérer son œuvre après. Elle a 9 ans lorsque son père part à une assemblée politique à Belgrade. Il était membre du conseil de Skopje. Il revient extrêmement malade et en 24 heures, il meurt. Les gens ont dit qu'il avait été assassiné en raison de ses opinions politiques, qu'on l'avait empoisonné, qu'il était mort comme ça. On n'a jamais eu la preuve, mais c'est la version qui ressort le plus. Toujours est-il que la famille se trouve sans père, avec la petite de 9 ans qui est là. L'associé de son père, du coup, déshérite la maman, enfin lui enlève tous ses biens, reprend seul l'exploitation, et se trouve sans rien du tout, pratiquement, comme ça. Et du coup, la mère doit, elle qui s'occupait des enfants, doit assumer eh bien, toute la famille, toute la charge de ménage. Elle va commencer une petite entreprise de broderie,